Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Nous espérons que vous allez bien. Petit live de débrief car on a eu un week-end magnifique avec le deuxième monument de l'année, le Round 2 qui s'est passé hier. Une très belle journée, une très belle course. On va revenir tranquillement dessus, mais également, puisqu'on n'a pas eu le temps de vous faire une preview spéciale, on va glisser ça sur la deuxième partie d'émission. Une petite preview du Tour du Pays Basque. Itzulia, qui va se tenir cette semaine, et on peut noter un plateau de favoris et outsiders assez exceptionnel sur un terrain qui, on le sait, chaque année apporte du beau spectacle. De ce fait, il est important pour nous de vous présenter cette course, mais dans un premier temps, on va parler de ce qu'on a vu hier, la magnifique victoire de Mathieu Van Der Poel qui va chercher son troisième sacre sur le Tour des Flandres, son troisième monument en un an également. Et pour m'accompagner ce soir et parler de tout ça, Loïc. Salut Loïc, comment vas-tu?
Écoute, ça va. Je viens de me faire casser les jambes par un trailer. Parce que j'ai pété mes pédales ce week-end à l'entraînement et je devais courir aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, bon, on va aller courir un peu. Et j'ai rencontré un ultra trailer de je sais pas quoi et il m'a embarqué pour 30 bornes. Okay. Du coup, là, je ne sens plus mes jambes et j'espère survivre le reste de ma semaine pour pas trop marcher comme un crabe, quoi.
Ok, Loïc, tu veux dire que tu n'as pas fait honneur aux Pays-Bas comme Mathieu Van Der Poel a pu le faire hier?
Bah non, je ne suis pas encore sponsorisé par Look, donc je n'ai pas de pédale et comme c'est férié aujourd'hui, j'ai pas pu en choper. Et en course à pied, il faut que je me mette au trail, quoi.
Ok, très bien, on note. Pour nous accompagner également ce soir, celui qui a failli ne pas être là, mais heureusement on a pu lancer le live plus tôt pour avoir son incroyable présence. On sait qu'il adore parler de Mathieu Van Der Poel. Ça aurait été dommage qu'il ne soit pas là pour parler de son idole. C'est Titien. Salut Titien, comment ça va?
Salut Théo, salut Loïc, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Écoute, quoi demande le peuple? Une magnifique victoire de Mathieu Van Der Poel avec le maillot de champion du monde. Et puis on prolonge ça avec une belle semaine au Pays Basque et avec Paris-Roubaix dimanche prochain en point d'orgue finalement de ça. Donc une super période de vélo avec mon coureur préféré qui en met partout. Donc je suis très heureux.
Alors Titien, avant qu'on attaque et qu'on rentre dans le vif du sujet sur ce round 2, j'ai une question à te poser. Les gens ne le savent pas, mais nous en interne, on le sait, Loïc, t'avais d'ailleurs tendu une perche sur l'émission que vous avez faite la semaine dernière. Ton chien avait misé Wout Van Aert sur la victoire du round. Petite question Titien, est-ce que tu avais marabouté, parce que tu avais mis deux images, une friandise sur chaque image, tu as fait sur la vidéo genre choisis celui qui va gagner, mais est-ce que t'as pas coupé et t'as mis choisis celui qui doit aller au tapis pour laisser gagner l'autre, parce que ton chien a choisi Van Aert quand même. Donc moi j'ai bien réfléchi à cette vidéo et je me demande si tu nous as pas mené en bateau et si tout ça n'est pas un peu ta faute.
Eh merde, ouais, j'avais appelé Paul Pogba pour avoir des petits conseils, mais malheureusement, voilà, ça a fait du mal à Wout, hein, donc, mais bon, voilà, évidemment, on n'a pas mis la vidéo en ligne, puisque le jour où on a fait ça, Wout, il s'est fracassé, mais peut-être que du coup, effectivement, je ne l'ai pas dit à l'équipe, mais j'ai fait en sorte que Mathieu Van Der Poel il soit seul au départ dimanche. Non, mais évidemment, jamais j'aurais voulu que Wood soit pas là. Voilà, c'était comme ça. Mais écoute, voilà, Van Der Poel il a gagné. Donc voilà, le chien, il est bien triste de tout ça. Et moi, je suis bien content.
Bien évidemment, pour la forêt, non?
Oui, c'est ça. Oui, bah depuis, je l'ai. Non, j'ai pas envie de faire des blagues sur les abandons de chiens. C'est quand même pas un truc qu'il faut mettre en avant. Donc, non, il est toujours là, il est toujours là.
En tout cas, on était parti pour lancer une petite série, genre les pronostics de Titien. Et en fait, il nous a coupé l'herbe sous le pied dès son premier
chrono. Je sais pas si on va se relancer là-dedans, parce que s'il fait tomber tout le monde à chaque fois, voilà, on va espérer que les start lists restent denses au départ des courses.
Salut messieurs, salut Panda, salut Simon, salut Tony. Oui, Tony, grâce à nous, tu peux développer ton second degré et je pense que à long terme, tu vas nous remercier car c'est quand même une capacité assez importante dans les échanges humains. Messieurs, sans plus attendre, on a une petite liste du coup de sujets que j'ai relevés et dont on va discuter ce soir. Bien évidemment, on a eu la course hier, je ne sais pas si ça vaut réellement le coup de revenir en détail sur ce qui s'est passé. En tout cas, on va pouvoir aborder certains points qui vont nous permettre de parler des différents faits de course. Donc on va pas faire en linéaire, mais on va faire en règle générale. Bien évidemment, la première personne dont on va parler, c'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé. Mathieu Van Der Poel qui a dit à la fin qu'il n'était pas dans son meilleur jour. Mathieu Van Der Poel qui, à un moment, on a cru qu'il allait être un peu juste, peut-être pas aussi fort que d'habitude. Mathieu Van Der Poel, on nous avait dit dans les commentaires quand on parlait d'une potentielle Pogacar, mais jamais il attaquera à 80 km de l'arrivée. Alors il n'a pas attaqué à 80, mais voilà. Mathieu Van Der Poel qui qui s'est imposé en solitaire après une échappée de presque 40 km, un tout petit peu plus je crois. Une avance qui aurait pu être encore plus conséquente s'il n'avait pas relâché sur la fin. On voit une minute d'avance sur ses concurrents. Je vais vous mettre tout ça en détail, tac, sur la scène. Mathieu Van Der Poel qui va chercher son troisième Tour des Flandres à seulement 29 ans. Une magnifique victoire en solitaire avec le maillot de champion du monde sur les épaules, le vélo dans les bras à l'arrivée. Messieurs, vous qui adorez Mathieu Van Der Poel, je vous laisse la main, vous allez en parler mieux que moi.
Bon, moi je pense qu'il faut... Van Der Poel, il a été incroyable, il a fait un solo, mais bon, il n'a pas été aussi fort qu'on le pensait au début. Moi je pensais vraiment qu'à 60 bornes ou 80 bornes, il aurait déjà tout défoncé, mais finalement, il a fait que ça à 45 km. Il a été gentil au début, on s'est dit, ah, en fait c'est papa qui va faire son petit tour de vélo, et il attend, ouais. Il laisse les gamins un peu derrière et après il va faire du tempo, quoi. Il a commencé à attaquer, il s'est dit j'ai commencé à appuyer sur les pédales sur la fin. Non, il a été stellaire quoi, enfin il était super fort. Après franchement on a enfin la course, moi elle était vachement j'ai eu beaucoup moins hâte à cause de la grosse chute qu'il y a eu quoi. Il y a eu tellement de personnes qui étaient dedans et c'est vraiment des images que j'ai eu du mal à voir, je trouve. Et ça m'a tout de suite un peu moins donné envie de regarder le rond 2, mais finalement on a eu une super édition. Enfin, moi j'ai quand même bien pris mon pied. Si on avait enlevé Van Der Poel, ça aurait été une super course.
Ouais, je pense quand même qu'il a été très fort parce que si on remarque, les conditions météo étaient dantesques. C'était vraiment un rond pas facile. Bah, on a vu ce qui s'est passé dans le Koppenberg. Et je pense que sur ces courses-là, en fait, quand tu fais un gros effort, ensuite tu peux le payer cash et on le remarque. Van Der Poel, il attaque à 50 km de l'arrivée dans le Coirmont. Je crois qu'ils sont 5 ou 6 à lui emboîter le pas. Ces 5 ou 6 à lui emboîter le pas, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait un seul qui finisse dans le top 10 à l'arrivée, en fait, parce qu'on remarque que tous ceux qui ont fait un effort tôt dans la course l'ont payé. Et lui, finalement, c'est le seul qui a réussi à rester sur ce rythme tout du long, quoi. Et puis, il se relâche dans le dernier kilomètre, donc il finit qu'avec une minute d'avance. Mais il n'y a quand même pas eu photo pour les autres. Alors oui, c'est vrai que voilà, il n'était pas non plus cette possibilité, je pense, de partir si loin de l'arrivée. Mais il a quand même fait une performance et c'est le premier round où il finit en solitaire tout seul. Donc il était quand même très très fort parce que ceux qui ont essayé de le suivre, c'était ceux qu'on attendait comme les principaux outsiders. Et ils ont fini très loin. Donc pour moi, une super performance de Mathieu Van Der Poel qui a montré en tout cas que allié technique et force, il était. Le round, c'est vraiment sa course et m'étonnerait pas que là il a égalé le record de victoire du round détenu par des Bonnen, Cancellara, Museu et autres. Ça m'étonnerait pas que il a que 29 ans, que dans les prochaines années il puisse battre ce record et devenir l'unique détenteur de victoire, nombre de victoires du round. Donc moi je trouve qu'il a quand même fait une super course et que c'est vraiment la course qui sied le plus à ses qualités.
On a vu l'an passé que lorsque Tadej Pogacar était là, ça pouvait être compliqué pour lui. C'est sûr que si Tadej Pogacar se ramène pas... Alors, malheureusement, on ne saura jamais cette année si Wout aurait pu ou non le concurrencer jusqu'au bout, sachant qu'en plus, comme on l'a dit, il n'avait pas non plus l'air, même si sa performance est exceptionnelle. Il a dit qu'il n'était pas dans la forme de sa vie et il nous a peut-être pas montré autant une impression de puissance parce que, son attaque dans le Koppenberg est magnifique et haute, mais il sort que, entre guillemets, il avait quoi, 8, 9 secondes, 7 secondes, je crois, devant Jorgensen, oui, dont on a parlé tout à l'heure. Ça. Donc on peut se dire que normalement, à Van Der Poel, et on avait vu à l'époque, c'était il y a 2 ans, où il bat Tadej Pogacar, lorsqu'ils partent à 3, là, avec Madouas et Pogacar et Van Der Poel, c'est des écarts plus grands qui se créent. Donc il n'avait pas non plus peut-être la patate qu'il pouvait avoir, en tout cas dans les monts sur les années passées, mais par contre après sur le plat ou autre, je veux dire dans le secteur pavé qu'il y a juste après le Koppenberg, là il est magnifique et on voit la différence, comme tu l'as bien dit, Titien, avec ce qui a pu se passer pour Jorgensen qui a complètement explosé après. C'est sûr qu'on peut se dire que si un gars comme Tadej Pogacar vient pas sur le round toutes les années là, Mathieu Van Der Poel, au vu de son niveau, il peut exploser le record actuel. On peut même imaginer qu'il aille en chercher 5, 6. Enfin, c'est une course qui lui correspond parfaitement. Même si j'ai quand même l'impression que... Alors, c'est un cyclo-crossman et tout, on le sait, Van Der Poel, mais j'ai quand même l'impression que le mauvais temps, c'est pas ce qu'il préfère. Ça me rappelle aussi le Paris-Roubaix Enfin, oui, c'est ça que gagne Sonny Colbrelli, où il est dans le groupe et tout, il paraît super fort, mais voilà, le temps n'est pas incroyable, il est même complètement pourri, et c'est pas ce qui lui réussit le plus. C'est assez fou pour un crossman, mais malgré tout, il était quand même largement au-dessus de tout le monde hier, quoi.
Bah, après, il a aussi énormément... Enfin, il n'a pas fait tant de jours de course que ça sur cette année, mais après, il avait sa saison de cyclocross avant, et... Bon, il a fait quand même des gros solos sur toutes les courses qu'on a vues là sur ces dernières semaines, donc c'est normal qu'il soit un peu fatigué. Après, il dit à la fin, oui, je suis fatigué, je suis free. Là, il va partir en Espagne sur Paris-Roubaix. On va aussi voir ce que ça donne sur Paris-Roubaix, mais je pense qu'il sera en très très bonne forme vu comment il choisit ses pics de forme. Pour moi, ça me fait pas trop peur. Je pense qu'il va il va récupérer là pendant une semaine et il sera en super forme à nouveau.
Tout à fait, on aura l'occasion de reparler de lui assez vite, Mathieu Van Der Poel, cette semaine. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour sur le vainqueur d'hier ? Est-ce que vous voulez rajouter des petites choses ?
Non, bah écoutez, je ne vais pas dire que le début de saison est excellent, en tout cas il est déjà réussi, voilà. Ouais. Je pense qu'avec un deuxième monument, enfin en tout cas il va encore disputer Roubaix, l'Amstel et Liège, une des trois courses en plus, et on pourra dire que vraiment c'est un incroyable, enfin excellent début de saison. Donc en tout cas, il est comme il l'a dit lui-même, c'est réussi, et il n'y aura pas de pression pour les prochaines courses, et je pense que voilà, sur ces trois courses, il peut encore en accrocher au moins une, donc voilà, il ne court pas beaucoup Mathieu Van Der Poel, mais il n'y a pas besoin de beaucoup courir pour lui pour aller chercher des grands succès prestige.
Tout à fait. Alors, messieurs, dames, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like pour référencer le live le mieux possible. Et comme d'hab, qu'on soit nombreux et nombreux à se retrouver pour discuter vélo ensemble. Pareil, vous savez, on vise les 2000 abonnés. Alors, si vous nous découvrez, je crois qu'on est 1996 à l'heure où on parle, ce qui veut dire que potentiellement, on pourrait passer les 2000 ensemble lors de ce live ou plus tard dans la semaine. Mais si vous nous voyez en replay ou si vous arrivez maintenant et que vous ne nous connaissez pas et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on passe cet objectif dès 2000, ce serait exceptionnel. Messieurs, deuxième point que j'avais soulevé. Alors, j'hésitais pour aborder en premier Visma ou Pedersen, mais je pense qu'il faut quand même qu'on aborde en premier sur ce deuxième point la tactique de la Lidl Trek et notamment de Mats Pedersen, qui a fait beaucoup parler. Alors, est-ce que Mats Pedersen, qui malgré tout a quand même semblé fort, parce qu'il passe, c'est un des seuls qui passe sur le vélo dans le Koppenberg, il passe troisième au sommet, est-ce que il a fait le bon choix? Est-ce que de toute façon, il était cramé et qu'il n'allait pas pouvoir suivre Van Der Poel? Est-ce qu'on le saura jamais si potentiellement il pouvait le faire? Qu'avez-vous pensé de ce qu'il nous a proposé et plus globalement, du coup, de la tactique de son équipe? Parce que, alors, est-ce qu'il l'a fait par lui-même? C'est-à-dire qu'on lui a dit dans l'oreillette « Arrête, tu déconnes, Mats, arrête ça !» Il a continué, ce qui me semble quand même un peu étrange, moi. Ou est-ce que c'est vraiment la Lidl Trek qui avait un plan avec cet échappé qui nous a fait de près de 30 km, là, à deux, avec Vermiche sur le porte-bagages, avant d'être rattrapé, puis forcément avalé par le peloton, parce qu'il avait laissé beaucoup de force dans la bagarre.
Bah, je pense que Pedersen, il a tout de suite senti qu'il n'était pas forcément... dans la forme de sa vie sur la course. Je pense que ça peut être lié à la chute, ça peut être lié à beaucoup, beaucoup de courses. Ça, je pense que c'est plutôt... Je parierais un peu plus sur la chute, mais en fait, il part et il se dit, bah, si ça passe, ça passe, et tant mieux, mais je lance mes cartes. C'est-à-dire que des fois, quand tu te sens un peu moins bien sur une course, tu peux te dire, bon, je vais essayer de prendre un peu d'avance et voir comment ça se passe, si je me refais reprendre ou pas, et sur un coup de chance, ça peut passer. Moi, j'ai eu du mal avec sa tactique. J'ai l'impression qu'il a dépensé énormément d'énergie et que, en fait, bah, tu vois bien où il finit. Enfin, il finit pas du tout à la place où on l'attendait. Merci, justement, sur Cycling Fantasy, on en parlait. On s'est dit, bah, pour ceux qui l'avaient mis, on a dépensé 1200 points pour pas grand chose, là, même pour rien du tout. Non, c'est. Pour moi, c'était une tentative un peu. Pas le couteau sous la gorge, mais je me disais, il a peut-être senti qu'il n'était pas dans la forme de sa vie et qu'il a tenté un coup de bluff et un coup de... Enfin, il a lancé les dés, quoi. Il dit, c'est dit pour un sur un malentendu, ça passe, quoi.
Et pour toi, tactique d'équipe ou vrai choix de sa part? À un moment, il a débranché l'oreillette, il a dit, non, vas-y, je l'attende comme ça et zou.
Bah, je pense que c'était... Enfin, justement, la course féminine, justement, on en parlait sur une émission là, il n'y a pas très longtemps. En fait, sur le rondeau féminin, ils ont fait une tactique superbe à Leader Trek. Après, bon, c'est pas du tout les mêmes équipes, mais moi, je me suis dit, bah, ils ont essayé quelque chose, il leur restait plus grand monde. Je pense que tu peux pas partir en solo sur 30 km sans que l'équipe soit d'accord. Enfin, ça m'étonnerait, je l'ai pas vu débrancher son oreillette parce qu'on lui gueulait trop dessus.
Ouais, très sincèrement, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il est devenu un peu fou hier. Enfin, il a pété un câble. J'ai vraiment pas compris. En fait, cette tactique, elle aurait pu s'expliquer. Même l'anticipation, au bout d'un moment, ça, c'était pas une excuse parce que il voyait bien que il se passait. Enfin, il aurait fallu qu'il y ait une dizaine de coureurs qui partent avec lui. Enfin, j'ai pas trop été étonné par des mouvements assez tôt dans la course, mais surtout, il y avait aucun coureur pour qui pouvait faire le travail, c'est-à-dire que derrière, il y avait que Tom Skuins finalement, Jonathan Milan, on savait de toute façon que ce serait une course très dure pour lui, et derrière il y avait que Tom Skuins en l'absence de Kirsch et Stuyven qui pouvaient être forts, mais tu te sacrifies pas comme ça pour un Tom Skuins qui dans tous les cas tu le sais très bien, ça n'avait pas de sens cette technique, et je pense qu'il l'a reconnu après son interview d'après course, il a dit voilà effectivement j'ai fait un peu n'importe quoi et moi c'est ce que je pense, c'est très sympa niveau animation de course, mais là pour le coup ouais, non, il a très mal couru, surtout que finalement on voit qu'il avait des, malgré sa chute de travers les Flandres, voilà, à mon avis s'il jouait bien il avait le top 10 dans les jambes, donc la victoire je pense que ça l'aurait pas fait, mais pourquoi après, pas dans ce groupe qui arrive pour la, en fait il a ni joué pour faire une place, ni joué pour gagner, parce que dans tous les cas sa tactique elle était perdante, donc ouais, je sais pas. Là, je pense qu'il a, voilà, il s'est trompé. Ça arrive. Il a peut-être un petit peu débranché le cerveau. J'ai pas tellement d'explications. Lui, il en avait pas beaucoup non plus, j'ai l'impression.
Bah après, je pense pas qu'il visait un top 10 non plus. Je pense que ça l'intéressait pas forcément. Et il s'est dit, je vais tenter un truc, quoi.
En tout cas, ouais. On nous dit dans le chat, Titien, tu as ton fan club, Réré du Bronx, qui nous dit, Titien, tu nous avais manqué.
Famille.
Et pour parler un peu plus de la course, Tony qui nous dit, Pedersen, ne pouvait sans doute pas tenir Van Der Poel s'il n'avait pas anticipé. Mieux vaut tenter le tout pour le tout si les chances ne sont pas de son côté. Et Starlos qui nous dit, Jorgensen et Pedersen sont les seuls à avoir suivi VDP dans le Koppenberg, vainqueur des deux dernières classiques, problème, les deux ont explosé. Moi, messieurs, et ça va nous permettre de faire le pont avec la Visma. Y a quelque chose que j'ai pas compris, parce que, alors, Pedersen, il réattaque avec Wermich sur le porte-bagages, alors qu'ils sont dans un groupe à l'avant, qui est parti, Van Der Poel fait le jump dans un mont non pavé pour les rattraper. Derrière ça, ça tergiverse un petit peu à l'avant, et là, Pedersen décide d'en remettre une. Si vous regardez bien à ce moment-là, à la tête du groupe qui laisse partir Pedersen avec Wermich, c'est Bennett, et juste à côté de lui, il y a Van Baarle. Et Bennett, il regarde, il les voit partir, il tourne la tête derrière, il voit que ça ne réagit pas, et il fait rien. Et moi, quand j'ai vu ce coup partir, je me suis dit, en fait, Pedersen, ok, c'était chelou ce qu'il a fait, mais imaginons que derrière lui, il est genre un Benoît ou n'importe quel autre coureur, à deux, c'est pas 20 ou 25 secondes qu'ils prennent. Ils peuvent peut-être même aller prendre une minute, on ne sait pas. Et alors, je ne dis pas que ça leur permet de gagner, mais c'est une autre course. Mais je ne comprends pas que la Visma, qui ait fait la course de mouvement, qui avait un Van Baarle, qui avait l'air pas trop mauvais hier, alors qu'on l'attendait vraiment pas forcément il a déjà fait des perfs bien meilleurs, Van Baarle, on le sait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même été à l'avant de la course.
Je l'ai pas trouvé exceptionnel, Van Baarle.
Non, mais on savait qu'il allait pas être très bon, mais au moins, on l'a vu. Je veux dire, on aurait pu ne pas le voir du tout. Bennett, pour moi, à ce moment-là, il doit sauter dans la roue, parce qu'on sait que c'est Jorgensen qui est leader, il est derrière, il est au chaud, il va revenir. C'est quand même fou de laisser partir Mats Pedersen à ce moment-là, sans emboîter le pas. C'est une erreur, pour moi, tactique de la Visma qui est terrible. Et en plus, derrière, on les voit aussi repasser quelques relais parce qu'ils ne veulent pas que ça parte trop devant. Je ne comprends pas comment, quand tu es à l'avant, que tu as deux gars à ce moment-là, que tu vois Pedersen qui part, tu ne sautes pas dans la roue. Et même peut-être les autres gars qui avaient dans l'échappée devant aussi. Quand tu as fait un coup comme ça avant, au moins envoyer un ou deux seconds couteaux pour faire rouler et fatiguer encore plus Van Der Poel, ce qui était quand même un des objectifs, quoi.
Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils étaient déjà cuits à ce moment-là en fait. Enfin, Bennett, il est là au bout de la course sur ses qualités d'endurance, mais j'ai l'impression qu'en fait, dans tous les cas, il y a les réserves dès à 100 km de l'arrivée, elles étaient déjà bien entamées. Ils avaient tenté leur coup tactique avec Van Baarle, ça a pas marché. Ils se sont dit, ça va pas le faire parce que derrière, je pense qu'ils pensaient pas l'équipe alpécine aussi forte et à mon avis, ils se sont dit. Bon, si on repart maintenant, on va prendre 15 secondes, même si on est avec Pedersen et derrière. Puis Tiche Benoît, tu vois, il a jamais fait podium du round, donc peut-être qu'il avait pas envie non plus de tout tenter, lui, contrairement à Mats Pedersen qui a déjà eu les places de 2 et de 3 pour aller gagner. Je sais pas finalement. Je trouve quand même que, à part ces timides tentatives, enfin timides, il y a quand même eu des tentatives, mais il n'y en a pas eu non plus énormément. Personne n'a couru pour gagner, parce que finalement, à part Mats Pedersen, encore une fois, personne n'avait vraiment cette ambition de gagner la course, cette impression que j'ai eue. Tous les autres adversaires, un podium, c'était déjà pour eux un résultat énorme, quoi. Donc moi, j'ai plus cette impression-là que, ouais, voilà, on n'aurait pas tenté le diable pour tout perdre ensuite.
Bah après, il me semble que, enfin, c'était les commentateurs néerlandais qui disaient que Van Baarle était là pour s'échauffer pour le Paris-Roubaix, qu'il prenait de la caisse et que c'était l'objectif de l'équipe. Bon, après, je sais pas quelles sont leurs sources, mais c'était ça. Mais moi, j'ai le truc qui m'a le plus choqué, c'était que les deux grosses forces tactiques qu'on avait annoncées, la Trek et la Visma, bah, pour moi, ils ont vraiment pas du tout bien couru. Et t'as l'impression que la Visma, quand ils ont pas quelqu'un qui est au-dessus, ils ont du mal à fonctionner tactiquement. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
Bah, je pense que la Visma fait l'erreur à ce moment-là, et la deuxième erreur qu'on voit aussi, on revient sur lui, Inigo nous le dit dans le chat, Jorgensen a essayé de suivre. C'est l'erreur de Jorgensen qui met le premier coup de pétard, là, à plus de 100 bornes de l'arrivée. On se dit, mais Van Der Poel, on en a parlé au début, mais on doit lui moi, je ne suis pas ultra fan de ce coureur, je dois lui reconnaître un truc. Il a vraiment passé un cap tactiquement. On l'a déjà vu l'an passé sur Milan-San Remo. Là, vous avez vu quand même, le gars, il n'a pas levé le cul de sa selle. Alors, ça fera peut-être le lien avec le troisième point. Tiens, on en a déjà parlé, mais il faudra qu'on parle de son équipe, parce que dans la deuxième preview que vous aviez fait avec Adrien, l'update post-chute, après à travers la Flandre, on avait dit en plus il a peut-être pas l'équipe la meilleure, Van Der Poel, si on va le taquiner il y a moyen d'eux, etc. Son équipe a été ouf, mais lui a couru à la perfection. Le seul coup de cul qu'il met, c'est pour rattraper le groupe qui est devant lui. Il le met dans un moment où, en plus, voilà, c'est pas un mont pavé, il prend pas le risque de chuter ou d'avoir un ennui machin, enfin c'est parfait ce qu'il nous fait. Et à l'inverse, Jorgensen, qui était quand même le leader de la Visma, qui est en méga forme, pour moi, si j'avais été son DS, j'aurais dit on va y avoir Benoît devant, va y avoir machin, hein. Toi, t'as un truc à faire, c'est la roue de Mathieu Van Der Poel. Et s'il te lâche, c'est pas grave, mais au vu de tes qualités de grimpeur, au vu de comment tu gères le truc aussi, tu peux passer les monts. Alors, Jorgensen, c'est pas Tadej Pogacar, mais je veux dire, pour moi, il a des qualités plus similaires à un Tadej Pogacar qu'à un Mathieu Van Der Poel, c'est-à-dire peut-être un peu moins puissant, mais capable, notamment avec ses qualités de grimpeur, de mieux passer les monts un petit peu plus longs. Et je trouve qu'il a lui aussi grillé des forces beaucoup trop tôt dans la course, quand à côté de lui, tu avais Mathieu Van Der Poel qui se faisait attaquer de toutes parts, mais qui était en mode « Bon, il me reste deux équipiers, moi, les gars. Je reviendrai quand il faudra revenir, mais je vais pas me cramer trop tôt, quoi. » Et j'ai trouvé qu'ils avaient, notamment sur ces coups-là, ben moi, j'aurais jamais envoyé Jorgensen en première carte ou mettre un coup de pétard à plus de 100 bornes de l'arrivée. C'était impossible, quoi.
Ouais, t'as raison, en fait. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où ils ont couru à l'envers. Leur seul taf avant les 80 derniers kilomètres, c'était d'épuiser à la Van Der Poel et ses équipiers, de les forcer à faire des efforts. Finalement, le seul qui a pas mis le nez sous la farle, qui a pas mis le nez à la fenêtre jusqu'à 100 bornes de l'arrivée, bah, c'est Mathieu Van Der Poel. C'est le seul qui a couru à l'économie, bien aidé, on en reparlera, par son équipe. Mais c'est vrai que j'étais très étonné de voir que Jorgensen, c'était le premier à lancer la mèche à un endroit en plus où derrière, enfin, c'était pas le mont le plus dur. Derrière, t'avais une grosse portion de plat, enfin, ouais, j'ai pas tellement compris là les enfin, toujours est-il que voilà, on est arrivé dans le final et en tout cas tous ces adversaires directs, les deux qu'on avait annoncés qui étaient Pedersen et Jorgensen, ils avaient déjà fait pas mal d'efforts pendant que Van Der Poel, voilà, bah il était resté tranquille, il avait bien laissé son effort, et je suis d'accord, il a parfaitement géré mentalement la petite crise, on va dire. Donc non, mais les adversaires ont un peu couru à l'envers, et je pense qu'après ces deux tentatives, voilà, on a vite compris qu'ils allaient pas tout retenter pour la victoire. Et que, enfin, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, une fois cet orage passé à environ 80 km de l'arrivée, je me suis dit, bon, bah, c'est du tout cuit pour Van Der Poel. Il y a encore trois équipiers, on arrive dans une portion jusqu'au vieux Coiron, il va rien se passer, et puis ensuite ce seront les jambes qui parleront. Donc ouais, ils se sont manqués effectivement de de coordination et je pense de jambes aussi. Et quand tu parlais d'un Van de Barle, etc. Mais pour moi, il n'était pas du tout. Pour moi, il n'était pas du tout au niveau. Enfin,
il n'était pas à son niveau.
De Dylan Van de Barle, quand même.
Oui, c'est clair.
Le mec, il a lancé une attaque. Ça a duré 10 km. Ensuite, il a complètement disparu. Enfin voilà, on va reparler des adversaires après, mais ils ont tous disparu au fur et à mesure et l'adversité, elle a été énormément défaillante. Donc voilà, Van der Poel a été très fort, mais il a bénéficié entre guillemets de un peu de quelques faiblesses tactiques, je trouve, des adversaires. Et parce qu'encore une fois, je pense que voilà, c'est pas des adversaires qui ont déjà été dans une configuration de gagner un monument, donc ça doit jouer aussi.
Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot, Loïc, sinon on passe à l'équipe Alpecin qui a fait un sacré boulot.
Ah, je vais juste répondre à Tony qui me demande si je parle néerlandais. Ja, natuurlijk, dat ik Nederlands praat.
Voilà, allez, on vous laisse discuter dans le chat maintenant. du coup, on disait... Qu'est-ce que tu as dit, Loïc?
J'ai dit bien sûr que je parle néerlandais. Enfin, il me demande dans le chat en néerlandais si je parle néerlandais, donc je lui dis ça.
En tout cas... Inigo, on arrive pour parler de Garcia Cortina, ce sera le point juste après l'équipe Alpecin. Alpecin, on va en parler rapidos puisqu'on a déjà un peu abordé, mais qui a vraiment montré une grosse force collective qu'on n'attendait pas forcément. Et comme je disais, Titien, vous aviez pu en parler jeudi dernier, c'était peut-être une des chances des adversaires de Mathieu Van Der Poel. Au moment où on se dit qu'il devrait être tout seul dans le peloton, peut-être à rouler en tête derrière Pedersen et les groupes qu'il y a devant, bah en fait, derrière Pedersen, il y a un Alpecin, et en tête de peloton pour rouler, il y en a encore deux, avec des gars qui sont capables de rouler fort. Van Der Poel l'a dit à la fin, les gars, moi je vous demande une seule chose sur cette course, c'est vous m'amenez au pied du Koppenberg avec les meilleurs, derrière, je m'occuperai de clôturer la course. C'est ce qu'il a fait. Et hyper intéressant parce qu'on a vu des équipes où on voit des équipes où il y a plein de grands noms. Alors, no disrespect pour les coureurs d'Alpecin, hein, qui sont de très bons coureurs, mais à part Craig Andersen, on n'avait quand même pas de mecs qui peuvent avoir de belles références sur des courses comme celle-là. Et ils ont parfaitement fait ce que leur leader avait besoin. Et c'est aussi pour ça que Mathieu Van Der Poel n'a pas eu à mettre, comme tu disais, Titien, le nez à la fenêtre avant ce moment-là.
Bah, je trouve que oui, ils ont, enfin, sur tout le début de course, en fait, tu les vois, ils sont très très souvent en tête. Et par exemple, il y a Axel Laurence qui fait un boulot de dingue. Enfin, il essaie de toutes les attaques, c'est lui qui va chercher les coureurs. Et moi, j'ai trouvé super impressionnant. Bon, ils ont tous bossé pour Van Der Poel parce que tu vois que je crois que les trois quarts de l'équipe finissent pas la course. Mais en tout cas, ils ont fait leur boulot sur les avant de lancer sur une piste d'atterrissage, ils ont fait un super super boulot quoi.
Ouais, tout à fait. Non, mais rien à dire sur l'équipe Alpecin. Ils n'ont pas paniqué. Voilà, ils n'ont pas réagi du tac au tac à toutes les attaques. Ils ont fait également ce qu'il fallait, c'est-à-dire en anticipant, en envoyant un Gianni Vermeersch, qui était sûrement une des meilleures cartes de Van Der Poel sur cette course, pour aller contrôler directement les Pedersen ou autres. On a vu Axel Laurence également qui se glissait. Enfin voilà, il y avait toujours un Alpecin qui allait se glisser dans l'échappée qui partait, et puis encore 3-4 autres pour rouler avec Van Der Poel. Donc voilà, il fallait amener Van Der Poel au pied du vieux Coirmont. Ils ont magnifiquement brillé là-dessus. Ils ont cassé toutes les velléités offensives des adversaires, et ce même en début de course, parce que moi j'étais très étonné que ce soit ce type d'échappée qui parte là à 250 km de l'arrivée. Je pensais vraiment que déjà certains placeraient des pions ou tenteraient d'embêter Alpecin, et voilà, ça n'était pas vraiment été le cas. Donc une équipe qui rassure, sachant qu'ils n'avaient pas encore Jasper Philipsen en plus, qui sera une autre carte pour Roubaix. Voilà,
super
début de saison de l'équipe Alpecin.
Le favori de Paris-Roubaix, Jasper Philipsen, voilà, je vous le dis. Bah, on en reparlera dans la preview, mais
on en reparlera.
On enchaîne Garcia Cortina et même l'équipe Movistar, qui s'est finalement retrouvée être ultra offensive avec Oier Lascano et Garcia Cortina dans un moment un peu décisif de la course, hein, parce que celui qui met la première banderie, alors c'était rigolo parce que les deux maillots, celui de champion d'Espagne et celui de champion du monde, on les voyait bien sortir au milieu des autres. C'est Lascano qui attaque, si c'est dans le Paterbeek ou dans le vieux Coirmont, devant Mathieu Van Der Poel qui le rattrape, puis finalement il passe pas trop mal. Et puis petite anticipation avant le Koppenberg de Garcia Cortina qui arrive à prendre une bonne vingtaine de secondes quasiment, et puis on sait pas si c'est un saut de chaîne ou autre, en tout cas problème mécanique, il est obligé de passer à pied. C'est aussi peut-être un peu pour ça que d'autres gars passent à pied derrière, parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir utiliser toute la largeur de la route qui n'est pas extrêmement large. Du coup ils se recentrent, et puis on se rend compte qu'à ce moment-là, tout le monde passe à pied à part Van Der Poel, Jurgensen et Pedersen. Dommage, c'était une belle tactique. Et sans dire qu'il allait gagner, Garcia Cortina, bien au contraire, mais j'aurais bien aimé le voir parce qu'il avait l'air en jambes et voir en tout cas comment ce coup aurait pu évoluer. Est-ce qu'il aurait pu réussir à sortir avec Mathieu Van Der Poel en haut du Koppenberg ou pas. Voilà. En tout cas, belle anticipation et ça fait plaisir de voir la Movistar briller sur ces courses-là. L'année dernière, ils avaient Jorgensen, enfin briller, présente en tout cas. L'année dernière, ils avaient Jorgensen qui est parti. On se disait, ah bah, peut-être leur manquait un petit peu de matos, et finalement on les a vus hier à l'avant, et s'il n'y avait pas eu ce problème technique, peut-être qu'on en parlerait encore plus ce soir.
Bah, briller, c'est quand même un très grand mot.
Oui, mais j'ai un peu abusé sur briller, je suis d'accord. Présent, on peut dire présent.
Ils ont été présents, et c'est super important. Après,
et peut-être plus décisif que les jumbo, tu vois.
Oui, bon, après, vu la course, c'était pas très compliqué. Non, je rigole. Mais non, c'est pas la Movistar. Il me semble que sur Cortina, c'est parce qu'en fait, il a même pas de saut de chaîne. C'est juste que, alors, l'impression que j'avais, c'est qu'en fait, il a dû patiner sur les pavés. Il a dû avoir l'impression qu'il avait déraillé. Mais en fait, s'il avait été cyclocross, peut-être que s'il avait été cyclocrossman, il aurait peut-être pas paniqué. Ou bon, je pense que en effet, il a eu une super inspiration d'anticiper. C'est vraiment dommage qu'il n'arrive pas à le passer. Après, il a un petit historique de boxeur aussi. Enfin, j'entendais ça dans le podcast de Sevan Barl, justement, qui parlait de ça, où en fait, il s'était retrouvé à frapper un coureur de la Visma sur la semaine dernière, un truc comme ça. Donc, bon.
On embrouille avec les Movistar en règle générale. Hein. Quintana aussi, les histoires de Tramadol. Là.
Ouais, ils ne s'apprécient pas énormément, j'ai l'impression.
Non.
Il faudrait peut-être que je multiplie mes sources, parce que si. Si je commence à écouter que leur podcast, la Movistar, je ne vais plus pouvoir les voir là.
Oui, en gros, il disait aussi qu'il y avait eu un bruit avec Quintana, qui l'avait empêché de se mettre dans la roue de je ne sais plus qui là. Et après, enfin, oui. En effet. Petit drama dans le peloton. Titien, je ne sais pas si tu as fini.
Titien, ouais. Non, Titien, vas-y.
Non, rien à dire. Après, Garcia Cortina, il s'est montré. Il sort vers 10-15e position du Koppenberg et il finit très loin la course. Il finit à 26e place à 2,40. Donc, j'ai envie de dire que c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on a vu que ceux qui avaient. Enfin, j'ai envie de dire qu'en fait, peut-être qu'il aurait beaucoup plus explosé s'il avait fini avec Van Der Poel et essayé de le suivre par la suite. Je sais pas, mais toujours est-il que Jorgensen, il finit à 7 secondes de Van Der Poel au sommet du Koppenberg, et Pedersen à 30, et les deux, ils finissent très très loin à l'arrivée. Donc, je sais pas s'il aurait changé grand-chose. J'ai l'impression que c'était vraiment une course où il fallait pas du tout lancer sa cartouche trop tôt, qu'il n'y avait qu'une seule cartouche possible et qu'il fallait la garder. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on voit, hein, tous ceux qui finissent dans le top 10, quasi, c'est des mecs qu'on a vu apparaître en fin de course. Voilà, c'était bien de les voir, mais oui, de toute façon, il leur manque quelque chose pour bien figurer au final, surtout Lascano qui a dû avoir un problème pour finir aussi loin quand même, alors qu'il semblait solide. Donc voilà, mais écoute, la Movistar, qui est quand même une équipe qui existe sur les classiques flandriennes, ça fait plaisir.
Comme nous le dit Starlos, il y a l'ajout de Rollins dans leur staff qui n'y est pas pour rien. Quatre petits points pour terminer, messieurs. Le premier, Bettiol et Teuns, un rien court pour aller jouer le podium derrière Mathieu Van Der Poel, rattrapé par un groupe. Et du coup, on peut aussi faire le point sur l'absence du coureur belge du top 5. Et heureusement qu'Oliver Nassen, qu'on n'attendait pas, vient chercher une 7e place. On n'attendait plus.
C'est vraiment mal pour la Belgique. Non. Non, ça fait vraiment mal pour la Belgique. Enfin, ça fait déjà 2 ans ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas réussi à faire le podium?
Je crois qu'Adrien avait dit 2 ans dans la preview.
Ouais, 2 ans, c'est la plus grosse période sans podium de Belge, il me semble.
Oui, c'était jamais arrivé.
Les copains belges, je suis avec vous. Enfin, je souffre avec vous, surtout que tout ce qu'on attendait de Vauti, mais je pense que l'année prochaine sera meilleure. Mais non, mais après, pour parler de Bettiol c'est Teuns qui se font rattraper. Ils se font quand même rattraper à la toute fin. Ça fait un peu mal au cœur de les avoir vu bosser comme ça. Bettiol n'a pas crampé. C'est-à-dire que,
oui, on s'était bien foutu de sa gueule. Ouais.
Il n'a pas crampé, donc ça nous a fait un peu fermer nos clapets. J'aurais bien voulu les voir finir. Parce que Bettiol, il a une belle histoire avec le Honda, quand même pour les Belges, avoir un podium, enfin au moins un gars sur le podium, c'était super important. Après, moi je suis très très content que Mosato arrive deuxième, parce que ça fait un très très bon résultat pour la BNB. Et je pense qu'ils en avaient. C'est l'homme en forme du début de saison, et je pense que bon, ça, c'était. C'était pas lui qu'on attendait forcément pour cette équipe, mais j'ai l'impression que c'est lui qui, dans le vue d'essayer de ne pas être relégué, c'est un peu lui qui amène tous les points à la maison, donc c'est très très positif pour eux.
Ouais, c'est clair. Bah, juste pour revenir sur Bettiol et Ettens, bah, Bettiol, voilà, qui a été très bon en deuxième plan. C'est vraiment dommage de ne pas faire podium, parce que tous les efforts qui ont été faits sur cette course, voilà, il avait tout bien fait. Il s'était pas dévoilé trop tôt, comme il peut avoir tendance à le faire avant d'exploser. Donc, il avait pour une fois plutôt bien couru. Donc, voilà, résultat un peu dommage par rapport à sa débauche. Et puis, Dylan Tuns, la résurrection. Ça fait un an et demi qu'il avait disparu un peu des débats. Hein, il avait eu des problèmes, je crois, en début de saison l'année dernière. Il avait du mal à revenir. Et là, il m'a paru très, très fort. Attention à lui sur la Flèche Wallonne. Pareil, il y a deux ans, quand il remporte c'était 2022, ouais, qu'il remporte la Flèche Wallonne. Il était déjà très fort aux rondes. Attention à lui. Il m'a l'air d'avoir un sacré punch, et quand il est en forme, il est très fort. J'ai l'impression que la pluie, c'est également un truc qu'il aime bien. Là, on se souvient de l'étape du Grand Bornand en 2021 qui gagne au Tour de France. Donc voilà, c'est un coureur qui vraiment passe partout et qui surgit souvent quand on s'y attend pas. Moi, je l'attendais pas du tout, donc ça fait plaisir de le revoir à Paris Fête. Et puis ouais, trop trop content pour Arkea BNB, ça fait vraiment plaisir. Et Mozzato, j'aurais peut-être plus attendu sur Paris-Roubaix, et puis il fait un super Tour des Flandres. C'est pareil, on l'a pas vu de la course, il a toujours été en second rideau, mais il s'est jamais fait exploser la caisse. Il va chercher cette magnifique place, donc je sais pas, on attendait beaucoup Arnaud Démare pour les sprints, mais à voir pour le Tour de France, parce que si Mozzato il reste sur cette dynamique de début de saison, est-ce qu'on a envie de le faire lancer Arnaud Démare sur le Tour? Moi j'en suis pas sûr, donc Tour de France c'est encore loin, toujours est-il que la Mozzato, voilà, il ramène beaucoup de points pour l'équipe Arkea, et puis surtout pour lui c'est une super performance, ça fait vraiment plaisir. Moi, je vois beaucoup, Tour des Flandres, les noms sur le podium, ils sont pas ronflants. Alors, c'est vrai, derrière Van Der Poel, mais c'est des mecs qui sont en forme sur le moment, et je suis vraiment pas sûr que si tu rajoutes la course aurait été différente, mais que tu rajoutes un Stuyven ou un Van Aert, moi, il y a rien qui me dit aujourd'hui que Stuyven et Van Aert, ils auraient été meilleurs que, enfin, ils auraient pas terminé dans ce groupe pour la deuxième place, sur leur niveau de début de saison. Donc, il y a rien à rabaisser sur le podium. C'est des mecs qui ont été très très forts dans ces conditions, qui ont parfaitement géré leur course. Donc, bravo Luca Mozzato. Moi, je trouve que ça fait hyper plaisir de voir un mec comme ça récompensé. Je suis pas sûr qu'un jour il arrive à faire mieux sur un monument. Donc, ça fait très plaisir.
Petit point pour terminer, Matthews, déclassement. Alors, on l'avait dit, il avait peut-être été trop gentil avec Philipsen sur Milan-San Remo. Là, il nous a fait un vrai sprint de surfeur lui aussi. Et finalement, voilà, il aurait pu enchaîner un deuxième podium sur deux monuments. Et puis, à noter quand même, une équipe qui était l'équipe vainqueur sortante de l'an passé, UAE, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et qui nous met Nils Polite en troisième position, Michael Bjerg, qu'on a vu bien à son avantage, en quatrième position, et puis Antonio Morgado, le jeune, la révélation surprise, même on peut dire, sur cette cinquième place. Donc trois coureurs dans le top 5, très belle course du UAE. On n'a quasiment pas vu aussi à l'avant.
Bah, ils ont couru assez intelligemment, c'est un peu... Enfin... Et ils ont pas trop montré leur nez, et ils ont réussi à, ils étaient en surnombre. À la fin, moi, j'étais vraiment surpris d'en voir, je me suis dit, mais d'où est-ce qu'ils sortent tous ces maillots blancs? et d'ailleurs, Nils Polite, on m'avait dit, ah non, mais il est trop vieux, il a jamais fait de résultat. Finalement, il fait troisième. J'étais assez, assez content de mon prono. Malheureusement, il était un peu trop fier sur la Cycling Fantasy, donc je l'ai pas mis, donc je le regrette amèrement. Mais non, il a fait. Et pour Matthews, il se fait déclasser, c'est dommage pour lui. Après, il fait un bon début de saison, mais s'il s'est fait déclasser, c'est aussi pour une raison.
C'est vrai.
Ouais, je suis d'accord. Matthews, il fait deux sprints de monument, quand même deux sprints assez irréguliers, on va dire. Donc là, il était normal. Surtout celui-là, il a quand même traversé la fauchée. Il a traversé la chaussée. Il aurait pu faucher tout le monde. Ça n'avait pas été le cas, mais Mais ouais, je sais que c'est dur pour lui après une course aussi dure, mais si on sanctionne pas de choses comme ça, au bout d'un moment, voilà, on laisse la porte à beaucoup de choses. Donc voilà, c'est malheureux pour lui, mais c'était un mouvement qui était dangereux et on a eu de la chance qu'il n'y ait pas de coureur qui était en train de le dépasser à ce moment-là. Ça aurait pu être très grave sinon. Et puis ouais, UAE, ils ont parfaitement géré. Je pense qu'ils, voilà, Nils Polite sur un podium, ça faisait depuis 2019 avec son final sur Paris-Roubaix avec Philippe Gilbert, qu'on ne l'avait pas vu. D'ailleurs, il sera à surveiller, hein, sur Paris-Roubaix, Nils Polite, parce que je pense qu'il n'était pas hyper avantagé par ces monts pavés. Et puis surtout, Antonio Morgado, pour l'anecdote, hein, ça fait 80 ans depuis 1944 qu'il n'y avait pas eu un coureur aussi jeune qui était dans un top 5 de monuments. C'était Rick Van Steenbergen le dernier. Donc c'est dire, enfin, c'est hyper rare quand même que des coureurs jeunes soit à ce niveau-là, surtout sur une course aussi dure avec de... Enfin là, pour le coup, c'était vraiment les capacités d'endurance et de résistance pure là, sur une course sous la pluie et tout qui était mise en avant. Et normalement, ce genre de coureur, bah, on voit des Lorenz Pitti, il a explosé, etc. Des très jeunes coureurs qui même, tu vois, Jorgensen qui est encore jeune, qui a pas beaucoup d'expérience des monuments, bah, qui a payé ses efforts. Et voilà, il a une sacrée gestion de de ses efforts. On l'a vu depuis le début de saison. Il est là sur toutes les courses. Donc, ouais, c'est un crack, Antonio Morgado. Et je pense qu'on va le revoir sur plein de types de courses. Il m'a pas l'air d'avoir un profil hyper défini. Enfin, il a l'air de savoir faire beaucoup de choses. Donc, bravo à lui. Et puis, bah, pour rester sur les jeunes, mention également à Magnus Sheffield. Je suis très content parce qu'il coûtait cher à Cycling Fantasy à 600, mais j'avais quand même rentré dans ma compo et il m'a rapporté beaucoup de points. Donc, non, voilà, c'est un coureur que j'adore, que je suis depuis tous les très jeunes, qui avait fait remporter la Flèche Bramanson à 19 ans et voilà, qui fait également une sixième place, je crois, sur ce round. Donc, voilà, les jeunes sont là et on voit qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui, ce qui était très rare il y a 10-15 ans, d'avoir l'expérience des courses cette endurance acquise avec l'âge pour briller. Donc voilà, il y a toujours des nouveaux cracks qui émergent et ça fait bien plaisir.
Très bien, messieurs, et ben je pense qu'on peut clôturer cette page ronde 2, sauf si vous voulez ajouter quelque chose et passer au tour du Pays Basque.
Dernier petit truc.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Juste les Groupama FDJ,
ah ouais, non, il faut en parler, hein.
Si Kung ne tombe pas, je pense qu'il avait vraiment, il était en super patte et il était en super, il pouvait, je pense, viser le podium. Après, Madoise, il va falloir en parler. Au bout d'un moment, il annonce son plus gros objectif de la saison. J'ai pas l'impression qu'il finit en très bonne position et on l'a vu à aucun moment pendant la course. Enfin, il a été transparent. Je trouve que Valentin Madouas, il finit 16e ou 15e, je ne sais plus.
Et il avait annoncé la victoire en plus, potentiellement, hein, dans son interview d'avant-course.
Ah ouais, non, mais c'est ça, moi. Enfin, je suis un peu énervé par rapport à ça, parce qu'il y a un gros problème chez la Groupama FDJ. L'année dernière, on arrive sur le Tour de France en disant, ouais, David Gaudu, on vise le podium, etc. On est loin des ambitions. J'ai l'impression qu'il y a un problème de prépa cette année. Valentin Madouas qui dit, ouais, je suis dans les meilleures jambes de ma vie. Là, je viens carrément pour la victoire. Enfin, alors que beaucoup de mecs, quand même, annonçaient le podium. Le gars, enfin, il n'est pas du tout au niveau attendu, en tout cas, de lui. Alors, certes, c'était... Enfin, voilà, la concurrence est de plus en plus rude, mais j'ai l'impression qu'entre les propos qui sont tenus par l'équipe et surtout la préparation à ces grandes courses, il me semble quand même qu'il y a avoir un petit problème. Donc, moi, je suis très déçu. C'est pourtant une équipe que j'aime bien. Valentin Madouas, c'est un coureur que j'aime beaucoup, mais là, enfin, entre le discours tenu et ce qui est montré depuis le début de la saison, c'est pas possible, en fait. Donc, je sais pas si ça vient de la prépa, s'il y a quelque chose, mais. Mais toujours est-il que voilà, Valentin Madouas, on est en droit d'attendre quand même mieux de lui, surtout après avoir justifié un début de saison en dedans en disant c'était une préparation pour tout miser sur le Tour des Flandres. Enfin voilà, en tout cas l'objectif il est passé maintenant et il va vraiment falloir se remobiliser pour les cadres de l'équipe parce que voilà, il y a Paris-Roubaix qui arrive, il y a encore d'autres classiques et la campagne en tout cas de Flandrienne, je la trouve assez décevante.
C'est un thème récurrent, j'ai l'impression, chez la Groupama FDJ, d'annoncer des très gros trucs et finalement, ils sont pas là, quoi.
En tout cas, oui, c'était un... Moi, quand j'ai entendu ces propos, je me suis dit, waouh, le mec, il vise la victoire. Et je rappelle, hein, il y a quand même 2 ans, il suit Pogacar et Van Der Poel dans les monts, quoi. Et là, tu te dis, waouh, ouais, bah, si là, il nous dit que c'est les meilleures jambes de sa vie, il y a moyen. Et puis, en effet, un petit peu... un petit peu décevant. On passe au Tour du Pays Basque. Sarah qui nous parle du Tour des Flandres féminin, tout à fait, qui il va être abordé dans un épisode de La Petite Reine qui a été enregistré. Loïc, si tu veux teaser un petit peu, voilà, qui va en être dit très bientôt.
Bah, on va dire que la course féminine a juste été incroyable. Enfin, j'ai vraiment été beaucoup plus content de regarder la course féminine que masculine. Et on a eu des Lidl Trek étincelantes, on a eu du suspense jusqu'au fond, jusqu'au bout. On a eu une Demi Vollering à faire le chasse-patate qui était en super forme. Van Lanroy qui fait des contres, on ne sait pas d'où ça sort. Franchement, il faut aller regarder cette course. C'était une leçon de vélo, je trouve.
Ok, très bien. Je crois que le teaser est parfait. Alors, messieurs, il nous reste un petit quart d'heure. On s'était dit qu'on essayait de faire une heure pour parler de ce Tour du Pays Basque qui arrive avant de lancer au niveau du parcours et de l'étape, puisqu'on a eu une première étape aujourd'hui, ce petit chrono de 10 bornes qui était annoncé, où on a vu quand même des choses un petit peu farfelues. On en profite pour donner un petit message de soutien à Tom Pidcock qui a chuté lourdement pendant la reconnaissance et qui est parti à l'hôpital. On espère que tout va bien après la chute de la semaine dernière. Malheureusement, ça s'enchaîne. Je disais oui, n'hésitez pas également à aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir les articles de la Reda qui nous ont fait, pareil, une super semaine pré-Tour des Flandres, là, à nous raconter des histoires de tous les côtés, de Jacques Durand, de Chavanel, etc., etc. Enfin voilà, surtout n'hésitez pas à aller nous suivre sur ces réseaux-là pour pouvoir lire des articles faits par Matt et Simon qui sont géniaux. Donc voilà. Messieurs, Tour du Pays Basque, deux choses. Première chose, un plateau exceptionnel, peut-être le meilleur plateau de favoris qu'on va avoir avant le Tour de France. Et puis ensuite, potentiellement, voilà, parler aussi de cette première étape qui a eu lieu aujourd'hui. Je ne sais pas par où vous souhaitez commencer. Je pense qu'on peut commencer par l'étape du jour qui va nous permettre d'embrayer sur les favoris. Vous pouvez le voir. Primoz Roglic vainqueur. Alors moi, toujours du nez dans Cycling Fantasy, je prends Remco, je prends Jonas, mais je ne prends pas Primoz, alors que voilà, vous connaissez mon amour pour lui, et il vient claquer le chrono en, excusez du peu, se trompant à l'arrivée, hein, je pars à droite au lieu d'aller à gauche, et je mets quand même 7 secondes au gars qui est derrière moi. Et puis derrière, voilà, Jay Vine dans la très belle équipe UAE qui est mise sur ce tour avec Juan Ayuso. Skelmose 3e, Remco 4e, Jonas 5e, Kevin Vauclin encore présent, comme il avait pu l'être sur Tirreno. Voilà. La course est lancée. On sait qu'on a en effet deux très beaux noms qui sont présents. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette semaine? Je vais tranquillement faire dérouler les étapes pendant qu'on parle de tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Titien, si tu veux prendre la main, je t'en prie.
Ouais, bah écoute, non, mais c'est clairement là, après le Tour de France, je pense, en termes de coureurs de grand tour, la plus grosse startiste de l'année, ils sont tous là. Enfin, franchement, c'est incroyable. Écoute, sur l'étape du jour, attention, enfin alors, c'est top, parce qu'on a l'impression que voilà, après un Paris-Nice en dedans, Primoz Roglic, il revient à un super niveau. Donc ça, dans tous les cas, je pense qu'il sera à un très bon niveau cette semaine, vu ce qu'il a montré aujourd'hui. Moi, je prendrais quand même pas les résultats du chrono comme un enseignement absolu. Hein. On se souvient, jurisprudence Tirreno-Adriatico, où Juan Ayuso avait un peu démonté le prologue, et on s'était dit, ah, est-ce que Jonas, finalement, il va pas buter contre Ayuso? Et puis finalement, on avait vu que bah, dès qu'il y avait un petit col de 10 km à 6%, Jonas, il était tout seul. Donc voilà, en tout cas, le résultat est ce qu'il est aujourd'hui. Roglic qui montre quand même une bonne forme, je pense que ça lui convenait très bien, une distance aussi dynamique. Mais voilà, là tu montres tu vas montrer à l'écran la dernière étape, c'est celle sur laquelle tout va se jouer, puisqu'en gros sur cette semaine on va avoir quoi, à mon avis, les deux prochaines étapes qui vont être un peu pour des sprinter puncher, et puis les trois dernières étapes qui...
L'étape de demain, ouais, je suis d'accord avec toi. L'étape de demain, on peut en parler rapidement. 160 bornes, des petits coups de cul sur la fin, mais on a vu un Nathan très en forme
voilà,
aujourd'hui.
Exactement.
Ça peut être pour lui, quoi.
Et celle du lendemain de mercredi, je pense qu'il y a un petit col, mais qui est
à
pas
peine
trop
plus,
compliqué
ouais.
Sur la fin d'étape. Enfin, en tout cas, voilà, je pense pas que le général va se jouer sur les deux prochaines étapes. Je pense que ça va plutôt être pour des mecs qui vont un peu vite au sprint et qui savent passer les boss. Mais voilà, les trois dernières étapes, effectivement, sont très très difficiles. Et puis surtout la dernière, c'est une masterclass chaque année. Ils la ressortent et elle est vraiment super belle. Et en fait. Tu vois, tu peux avoir les écarts que tu as avant cette étape, tout peut être remis en cause parce qu'elle va être vraiment, vraiment très difficile. Donc voilà, dans tous les cas, bravo à Primoz Roglic. Derrière, ce qui va être super intéressant, c'est pour moi, c'est quand même que ici, on a trois des quatre prochains grands favoris du Tour de France qui sont présents. Et j'ai hâte de voir sur ce parcours, enfin, voilà, ce qui peut se passer. Est-ce que déjà, Jonas Vingegaard voudra écraser la course et dire à Roglic et Evenepoel, bon, les gars, mon seul adversaire, ce sera Poggi. Et encore, vous, en tout cas, vous vous battrez derrière pour la troisième place. C'est peut-être ce qui est possible. Ou alors, est-ce que, voilà, un Primoz Roglic, Roglic et Evenepoel vont vouloir mettre de le doute à Jonas Vingegaard. En tout cas, moi, si j'étais le Danois, j'essaierais d'écraser la course le plus possible pour déjà que mes adversaires se disent, bon, ok, il est vraiment injouable. Donc, en tout cas, il va y avoir des sacrés enseignements. Et puis derrière, il y a tout un lot d'outsiders qui va être sympa à suivre sur cette course.
Bah, je pense que, bon, j'espère que Vingy va pas nous plier la course dès le début. J'espère que aussi que la Cofidis va faire quelque chose. J'ai l'impression que Izaguirre était en bonne forme et je pense qu'il y a peut-être, il pourrait essayer de viser, enfin, ramener la première victoire pour Cofidis, ça leur ferait vraiment du bien. Et puis, il gagne un prologue qui fait 12-13 minutes. On va attendre les grands cols pour essayer de dire s'il est en forme ou pas. Après, c'est toujours un bon signe. Hein. Et après, Remco qui tombe dès le début aussi. Il tombe, ouais. Il fait une petite chute. Je ne sais pas à quel point ça a impacté son contre-la-montre. Surtout que je pense que ce qui va vraiment être important pour lui, c'est de voir comment il se comporte à côté d'un Vingegaard et d'un Roglic sur les grosses étapes de montagne. Je pense que ça va vraiment être un enseignement assez intéressant pour le Tour de France. Même si je pense que sur une semaine, ça peut parfaitement le faire pour lui. Je pense que c'est plus en deuxième et troisième semaine qu'il va vraiment souffrir. Donc, à voir. Mais je pense que sur une semaine, ça peut vraiment très bien le faire pour lui. Et la grande vérité se fera sur le Grand Tour.
Inigo qui nous demande en effet si on peut tirer des conclusions pour le Tour de France. Bien évidemment non, et ce pour deux raisons. Bah, déjà, c'est une course d'une semaine. Et c'est sûr qu'en termes de parcours, le Tour du Pays Basque, c'est peut-être la course d'une semaine qui est la plus éloignée d'un grand tour, parce que c'est avant tout une course pour puncheurs. Comme l'a dit Titien, la dernière étape, elle est hyper intéressante, mais quand on regarde la dernière étape, alors on n'est pas tout à fait sur une Ardennaise, c'est quand même plus long et plus difficile, mais je veux dire, les montées qui sont compliquées, c'est du 4 km à 9%, du 3 km à 7%, du 5 km à presque 10%. Oui, c'est difficile, mais c'est pas ultra long et c'est pas des profils en effet de haute montagne avec des cols qui dépassent les 15 bornes. En effet, il y a peu d'altitude, hein, puisque notamment sur la dernière étape, on montera pas plus haut, je crois, que 700. Enfin voilà, c'est des profils différents. Mais on sait malgré tout que les coureurs qu'on a cités aujourd'hui, ils ont les capacités de briller à la fois sur des courses punchy et à la fois sur des courses où il y a de la haute montagne. Pour revenir, comme tu disais, Titien, sur les trois dernières étapes. Alors, malgré tout, moi, je pense que l'étape 3 n'est pas à exclure. Hein. Là-bas, ce n'est pas très dur. On a 6,5 km à 4%, mais le sommet est à 15 bornes de l'arrivée, à peine plus. Si on a déjà envie un peu de se mettre sur la tronche, ça peut éventuellement le faire. L'étape de jeudi, l'étape 4, c'est en gros l'étape 3 en plus difficile, puisque la dernière bosse, alors déjà, il y a deux dernières bosses, mais il y en a une qui arrive à 8 est à 8 km de l'arrivée, et c'est 3 km à 9%, enfin 8,7, donc autant vous dire que si vous êtes sprinter, vous avez moins de chances de passer. L'étape de vendredi, l'étape 5, pareil, on a des fameuses bosses sur la fin, on n'a pas encore la grande explication, et puis comme tu le disais, Titien, la dernière étape, la plus compliquée avec cet enchaînement de bosses. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de coureurs comme Mathias Kelmos, qu'on a vu très en jambes aujourd'hui, même de Kevin Vauclin ou autres, qui ont du coup des profils quand même plus punchers? Est-ce que vous pensez qu'ils vont réellement pouvoir aller se mêler à la victoire, même un Charman ou autre? Enfin, Charman, il sera équipier de Roglic, mais je veux dire, voilà, tous ces profils. On parlait d'Izaguirre, on sait qu'il réussit bien sur cette course. Tous ces profils qui ne sont pas des grands grimpeurs, mais qui pourraient peut-être même aller chatouiller. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'un Jonas Vingegaard peut taper autant du poing sur la table dans une étape comme celle de samedi que dans les étapes qu'on a pu voir à Tirreno? Et est-ce qu'il ne sera pas réellement concurrencé sur ce tour du Pays Basque?
Bah, En fait, il peut l'être. Et en fait, pour moi, alors, je disais, enfin, effectivement, c'est une épreuve différente du Tour de France, mais pour moi, on va quand même en tirer des grands enseignements. Parce qu'effectivement, tu dis qu'il n'y a pas de haute montagne. Globalement, c'est un parcours, tu vois. Tu penses à Remco Evenepoel, tu dis, ah ouais, ça lui convient de fou. Après, Mauro Roglic aussi. Et si ces deux coureurs, sur un tour du Pays Basque, se font laminer par Jonas Vingegaard, dont on connaît l'aisance sur les grands cols par rapport aux cols plus courts, pour moi, ça va en tirer des grands enseignements. C'est que sur les longs cols du Tour de France, quand il faudra monter la bonnette les 23 km à 7% en fin de Tour de France, il n'y aura pas photo si déjà ils se prennent sur des cols comme ça une mine par Vingegaard. Donc, dans un sens, si c'est serré entre les trois, on ne pourra pas tirer d'enseignements. Par contre, si Jonas Vingegaard, et moi je pense qu'il va tout écraser, remporte cette étape, enfin, moi je vois bien partir tu vois, sur la dernière étape là, dans cette montée. Qui a l'air horrible en milieu d'étape pour aller ensuite mettre plusieurs minutes à ses concurrents, bah là on pourra se dire ah ouais ok bon bah voilà Evenepoel déjà il gagnera pas de course par étape World Tour cette année, c'était un de nos débats de début d'année, s'il gagne pas celle-là là ça va vraiment être très compliqué et puis ensuite oui voilà les enseignements ils pourront être là, par contre c'est sûr que si Vingegaard il gagne avec 20 secondes d'avance sur Roglic et 30 sur Evenepoel, voilà ça restera serré mais je pense pas ce qui va se passer et moi je pense qu'effectivement voilà, cette dernière étape, elle est quand même très très dure et Jonas Vingegaard, il va, voilà, il va taper du poing sur la table et il doit le faire en fait pour taper, enfin pour faire mal au moral de ses adversaires. Et puis après, ouais, bah écoute, moi, Kevin Vauclin, écoute, il est dans mon équipe Cycling Fantasy parce que je trouve que le parcours, il lui convient très bien. Il a fait un super chrono avec cette sixième place. Voilà, j'ai l'impression qu'enfin, cette année, s'il échappe un peu au problème, il peut montrer tout son potentiel et c'est un excellent coureur. Donc moi je l'attends, je serais pas étonné d'un top 10 et ce serait déjà une excellente performance étant donné que bah voilà la concurrence sur cette course elle est hyper rude. J'ai hâte de voir également un Juan Ayuso face quand même au trio magique Roglic, Jonas et Remco, voir si Juan Ayuso il arrive à parce qu'on parle voilà de ces trois grands coureurs mais tu vois, petit à petit, hein, Ayuso, qui est à mes deuxièmes de Tirreno, s'il arrive à s'immiscer entre ses coureurs, on pourra se dire qu'au tour, bah voilà, il pourra peut-être jouer la doublette avec Pogacar pour faire un peu le jeu d'équipe et mettre en difficulté les adversaires. Donc non, il y a quand même pour moi pas mal d'enjeux, pas mal de coureurs que j'attends, mais je serais pas étonné que, tu vois, Vingegaard s'impose devant Ayuso et Roglic et ouais, bah Kevin Vauclin, moi je l'attends beaucoup, peut-être plus qu'un Romain Grégoire que je trouve encore un peu poussif en ce début de saison. Donc voilà. Et puis comme tu disais, ouais, tu l'as cité rapidement, mais ça fait plaisir de revoir un Maximilian Schartmann. Là, j'ai l'impression qu'il traînait sa misère depuis 2-3 saisons et qui est en train de petit à petit refaire des résultats intéressants en ce début de saison. Enfin voilà, quand tu vois qu'il fait 8e de ce chrono, ça veut dire qu'il est en forme. Et peut-être, tu vois, sur les 2-3 premières étapes, là, aller taper une étape au sprint, ça me ferait plaisir de revoir l'Allemand à un top niveau.
Non, mais c'est sûr que enfin Vauclin, il est sur une super pente en ce moment, sur ce début de saison. Je pense qu'il peut vraiment, contrairement tu vois, à un Romain Grégoire, vraiment plus viser le général, être placé sur le général. Je pense pas qu'il peut viser un podium vu le classement. Un top 5 serait vraiment déjà exceptionnel. Après, je pense qu'aussi, il faut pas... Faut peut-être pas oublier Brendan McNulty. Il a fait un super début de saison. Il a peut-être un peu trop enchaîné à mon goût, mais il peut. Bon, il sera pas là un candidat pour la victoire finale, mais pour un top 5, je pense qu'il pourrait être là.
Très bien, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant ce tour du Pays Basque ?
Bah, on se fait un petit prono.
Ouais, allez go. Prono vainqueur ou prono podium ?
Bon, podium, allez, parce que vainqueur, on va se tromper. Podium, au moins, on aura plus de chance d'avoir un bon.
On va se tromper trois fois.
Ouais, je pense que c'est... Faut savoir quel ordre on va mettre ou...
Bah, moi, je pense que Remco va exploser dans la dernière étape. Et du coup, je vois un podium Vingegaard devant Primoz, Roglic et Juan Ayuso.
Alors, tu dis Vingegaard, Roglic, Ayuso ?
Ouais.
Ok. Loïc, tu veux te lancer ou...
Vas-y, je t'attends. J'attends ta réponse. Je sais pas. Moi, je le vois pas exploser Remco, en fait. C'est trop court pour qu'il explose encore. Et c'est pas encore assez haut.
Ouais. Non, moi, je... Allez, grosse cote. Remco. Remco Vingegaard-Skelmose. Et je mets Primoz en dehors. Ah, oui. Je vais rester dans mes convictions puisque je ne l'ai pas mis dans mon équipe Cycling Fantasy. Et on va se dire aïe aïe aïe, c'est finito pipo. Ou alors il va, est-ce que je lui souhaite pas hein, parce que je l'adore, mais il va avoir un coup de malchance. Enfin, ouais, allez, je dis ça. Remco, Vingegaard, Mathias Kelmoze. Moi, à qui je pense cette étape va parfaitement, enfin ce parcours, cette épreuve, pardon, va parfaitement bien.
Moi, je vais choisir la sécurité. Hein.
La du pied sécurité.
Une assurance tout risque. Je vais prendre Vingegaard premier, deuxième Primoz et troisième Remco. Moi, je les vois à peu près dans cet ordre-là.
Ah oui, là, tu fais...
Je vous ai dit.
Au niveau de risque.
Une cote à 1,0001 peut-être. Je pense que là, on peut pas faire plus sécurisant. Je pense que les plus grosses cotes vont plus se faire dans un top 5.
Ouais. Tu rajoutes qui dans ton top 5?
Je mets un Brendan McNulty et okay. Je vais mettre un. Alors là, un. J'ai dit entre justement. Kelmoze, je mets 5e.
Okay. Moi je rajoute voilà. Ayuso Vauclin. Voilà, mes grosses cotes. Mon top 5. Primoz en dehors du top 5.
Ah ouais.
Hors du top 5.
Bah, je vous ai dit, il va avoir un truc.
Il fait un contre-karma là, c'est sûr.
Ah,
là, Ta, je dis rien de plus. Je ferai pareil autour de la France.
Mais il y a Louis dans le chat qui me demande oui, effectivement, j'ai Milanda dans mon équipe. Parce que pour moi, sur son niveau du Tour du Pays Basque, qui était quand même impressionnant. Mais je vais te donner le scénario, il va être très très fort, et puis quand Remco va exploser dans la dernière étape, on va lui dire attends Remco, et malheureusement il pourra pas jouer sa carte. C'est un peu j'ai peur, mais j'ai quand même trouvé excellent en Catalogne, et puis l'année dernière c'était le deuxième plus fort hein, après Jonas Vingegaard autour du Pays Basque. Donc moi je pense qu'il sera très fort Mikel Landa, mais j'ai peur qu'il soit coincé par le jeu d'équipe. En tout cas je serais très triste si on voit que Remco à un moment a un coup de moins bien et que Landa est encore placé, qu'on dise à Landa bon bah tu t'arrêtes et voilà. Mais je pense que c'est
ce qui va se passer. Ouais, je te rejoins totalement là Titien. Pour moi il va devoir bosser et j'ai dit qu'il arrivait troisième, donc il n'y aurait pas trop de... Je pense qu'il va devoir bosser au train pour faire remonter Remco, qui va pas pouvoir suivre Roglic et Vingy sur les grosses côtes.
Très bien. Eh bien, écoutez, si on a fait le tour, messieurs, t'as dit tes deux derniers, Titien, sur ton top 5
Bah, écoute, moi, je vais rajouter en quatrième, du coup, un Mathias Kelmoze, et puis en cinquième, un Yonis Aguirre. Pareil, c'est la course de l'année où le mec, il se transcende. Et puis, un peu de positif pour Cofidis.
Ok, voilà, très
il faut
bien.
Qu'il gagne.
Eh bien, parfait, messieurs, dames, comme dit, merci de nous avoir suivis ce soir. N'hésitez pas à lâcher un petit like tranquillement sur cette vidéo pour la référencer le mieux possible. Pareil, au niveau des abonnés, sachez-le, nous sommes pas loin des 2000. Donc voilà, la marche n'est pas loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Il en reste deux.
C'est ça, il en reste deux. On les aura pas passés en live ce soir, mais voilà, vous êtes pas loin. On nous demande s'il y a une ligue Radio Fringale sur Cycling Fantasy. Bah, il y avait une ligue Fringale Légende avant. Mais malheureusement elle n'existe pas cette année, on n'a pas refait les démarches, on n'avait pas trop le temps, à la limite peut-être l'année prochaine qu'on redemandera. Mais bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours rejoindre notre équipe Cycling Fantasy. Vous nous envoyez un mail avec votre pseudo, nous on vous rajoute, comme ça vous faites partie de la Canyon Belfort Wallet, équipe incroyable de Radio Fringale, sur Cycling Fantasy. Vous pourrez retrouver à la fois les personnes qui sont dans la rédac, les personnes qui font le podcast, des fans, des personnes qui animent le chat, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, petit mail de candidature entre guillemets, puisqu'on accepte tout le monde. Et puis voilà, messieurs, dames, comme dit, merci de nous avoir suivis, merci Titien, merci Loïc pour ce petit live.
Merci beaucoup, c'était génial.
Ouais, c'était chouette, et puis une belle semaine de vélo là qui vient, donc c'est vraiment top.
De ouf, on se retrouve très bientôt concernant Paris-Roubaix, là, ce petit truc qui arrive fin de la semaine prochaine. Petit Paris-Roubaix qui nous attend, pendant lequel, donc petite preview qui devrait sortir normalement jeudi soir, si tout va bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si elle sort pas avant, on a des agendas un peu remplis pour cette semaine. Et puis on se retrouvera forcément à la fin de la semaine pour faire un live de débrief de Paris-Roubaix. Peut-être qu'on glissera également le débrief du Pays Basque, peut-être qu'on fera le Pays Basque avant, enfin Bref, on vous tient au courant sur YouTube et sur Instagram et Facebook concernant les infos. En attendant, pour cette belle semaine de vélo, même si vous avez bien mangé pour Pâques, n'oubliez pas de vous alimenter. On se retrouve tout bientôt, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Ciao, ciao.
Allez, copains, bisous.